Et voilà, en de noir, deuxième acte. Et nous avons le plaisir de retrouver Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Alors, on vous a demandé de concocter, de regarder un petit peu dans vos rayonnages pour nous parler d'un livre que vous aimeriez conseiller pour cet été. De voilà. Quoi est-ce qu'on va causer?
Alors, on va causer, je vais même vous conseiller une série en fait, si vous ne la connaissez pas. On va parler du dernier de la série d'un Anglais qui vit en Asie qui s'appelle John Burdett. Le dernier s'appelle Le Parrain de Katmandou. Et contrairement à ce que laisse supposer le titre, ça se passe à Bangkok. Donc c'est un roman qui a été publié, comme tous ceux de la série, aux Presses de la Cité, dans la collection Sang d'encre, et qui est traduit par Thierry Piella. Alors, je prends un gros risque pour ma dernière chronique, parce que le nom du personnage principal est assez difficile à prononcer. Il s'appelle Sonchai Jiplichip.
On va lui donner un petit surnom pour les amis.
On va dire Sunshine. Hein,
on va dire Sunshine, oui, effectivement.
Sunshine, c'est très bien.
Sunshine, c'est très bien. Donc, c'est le personnage principal de John Burdett, qui est un flic de Bangkok, du 8e district de Bangkok, plus exactement. Et c'est un flic un petit peu particulier, puisque c'est, en gros, le seul flic du 8e district qui n'est pas corrompu, qui est un bouddhiste convaincu, qui c'est le fils d'une prostituée, il est métis, il a vécu en France. Il a vécu en France quand sa mère a été un moment entretenue par un riche français. Donc il connaît très bien le cinéma de Truffaut, il sait faire de la cuisine française, enfin, il est un peu particulier.
Il est un peu parti lui quand même, hein, déjà,
voilà.
Avec tout ce background.
Voilà, et il n'est accepté par le colonel Vicorne, qui est le grand chef du 8e district de Bangkok et un des grands parrains de Bangkok, que pour une seule raison, c'est que chaque district essaye d'avoir un flic incorruptible à montrer à la presse étrangère quand elle vient, parce que sinon, il apporte pas d'argent. Il apporte pas d'argent au district, et donc ça fait toujours ça de moins à se répartir entre tout le monde. Et ce flic, donc qui est en plus métis, donc qui connaît bien les cultures à la fois occidentales, des farangues, comme ils disent, et puis bien sûr thaï, se retrouve toujours empêtré dans des enquêtes assez étonnantes, avec des meurtres par des serpents, avec des... Là, alors dans le parrain de Bangkok, il se retrouve avec un réalisateur...
Non, je m'excuse, c'est le parrain de Katmandou. Je suis, moi, monsieur.
Oui, pardon, de Katmandou.
Je suis, monsieur.
Il se retrouve avec un Américain, un réalisateur américain, qui est retrouvé mort chez lui. Il a été trépané, on lui a enlevé la calotte du crâne, on lui a même mangé un bout du cerveau, il a été éventré. Et voilà.
C'est Indiana Jones. Je suis sûr que c'est Indiana Jones. Non, pardon.
Pas Indiana Jones. Et en même temps, il a un deuxième problème, c'est que son protecteur, qui est donc le colonel Vicorne, vient de voir la série du parrain. Il ne la connaissait pas. Et il a beaucoup aimé un personnage dans la série, c'est que la famille Corleone, ils ont quelqu'un qui s'appelle un consigliere, c'est-à-dire un conseiller de guerre, qui est leur bras droit. Et il lui ordonne de devenir son consigliere. Et on ne peut pas refuser à Vicorne si on veut rester vivant. C'est pour ça que ce pauvre Sunshai, en plus d'aller mener une enquête sur cette espèce d'Américain trucidé, est obligé de partir à Katmandou négocier la livraison de 40 tonnes d'héroïne avec...
On se doutait qu'il allait avoir de la drogue. Je sais pas pourquoi.
Voilà.
Katmandou-Bangkok, ça nous
voilà.
Disait quelque chose.
Et oui, donc 40 tonnes d'héroïne avec une espèce de, comme il l'appelle, une fripouille de gourou. C'est un yogi tibétain, mais complètement truand par certains côtés, mais avec une grande force spirituelle qui va devenir son gourou. Donc voilà ce pauvre Sunshai qui est ballotté là au milieu et qui va bien sûr arriver à tout. Bien sûr, il va résoudre l'énigme, il va arriver à faire livrer les 40 tonnes d'héroïne. Il va avoir un petit peu plus de mal à se débrouiller avec sa conscience quand même.
Oui, ça, bouddhisme, ça doit pas aider tous les jours, là, pour ces histoires.
Voilà, ouais, il y a des petits problèmes. Alors, quand on voit ça, des gens éventrés, le cerveau mangeant, on pourrait croire que c'est sinistrissime. C'est très dur, par certains moments. La description de la ville de Bangkok est extraordinaire, avec toute la misère qu'il y a, avec la prostitution, avec tout ça. Mais en même temps, il y a une énergie, il y a une vitalité et un humour qui font tout passer. Et en particulier, John Burdett, qui est donc anglais, mais qui vit en Asie depuis très très longtemps, a un regard extrêmement drôle sur nous, sur notre attitude, sur l'attitude des Européens ou des Américains ou des Australiens qui débarquent en Thaïlande. C'est pas du tout un regard moralisateur, ni d'un côté ni de l'autre. C'est par contre un regard qui s'attache à mettre en évidence les incompréhensions, les malentendus. Et finalement, aussi bien du côté de ceux qui veulent une Thaïlande qui ressemblerait à un pays européen, il arrive très très bien à mettre en avant les côtés plutôt rigolos. Il fait pas l'apologie, de, faut croire, de la prostitution. Mmh. Il la montre comme un fait économique qui existe là-bas. Il arrive bien à mettre en évidence tout notre propre rapport à la sexualité qui est pas toujours simple, qui fait que on va là-bas, certains vont là-bas pour trouver ce qu'ils n'ont pas ici, mais avec de la culpabilité, avec tout ça. Tout ça c'est dit de façon très très drôle, ça fait qu'on rit en fait, ou on sourit souvent dans ces romans. On les referme avec la pêche, avec finalement plus la pêche que quand on les a ouverts, et pourtant on a lu des horreurs. C'est un des grands paradoxes de ce romancier.
Ça doit être dû à l'énergie dont vous parlez dans l'écriture. Vous nous avez parlé d'une série, ça veut donc dire qu'on peut retrouver ce même personnage dans plusieurs romans aux presses de la Cité ?
Exactement. Alors, je vais vous donner la série. Le premier s'appelle Bangkok 8, et je crois qu'il a été repris en 10-18 Grand Détective. Je crois, je ne suis pas certain. Ensuite, il y a Bangkok Tattoo, Bangkok Psycho, et le dernier, le parrain de Katmandou.
Katmandou, oui. Là, donc, on quitte pas Bangkok.
Et je crois bien qu'ils sont repris chez 10-18. Vérifier, mais j'en suis quasiment sûr.
On pourra vérifier chez notre libraire favori. Donc c'est vraiment des livres dépaysants et instructifs, donc apparemment.
Oui, avec vraiment une description de Bangkok qui est exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. C'est un des personnages de toute la série, cette ville.
Donc on va rappeler, donc aux presses de la Cité, ça s'appelle, ça j'ai retenu le titre, Un parrain à Katmandou.
Le parrain de Katmandou.
Le parrain de Katmandou, pardon, et l'auteur John Burdett.
Burdett, B-U-R-D-E-2-T, et le traducteur est Thierry Piella.
Eh bien Jean-Marc, il nous reste à vous remercier pour toutes les chroniques de la saison. Merci. Et on vous retrouve pour plein d'autres actualités sur votre site qui s'appelle Actu du Noir, qui est vraiment un des meilleurs blogs sur la blogosphère sur le roman noir et le polar. Et puis on se retrouve à la rentrée.
Voilà, et bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances et bonne lecture, bien sûr.
Au revoir Jean-Marc.
Au revoir et merci.
Et un petit morceau de musique
de Neil Young, de son nouvel album qui vient de sortir récemment, qui s'appelle Treasure, Trésor, donc en français.
Ouais, contente-toi du français, je pense que ça vaut beaucoup.
C'était un concert en fait de 1984 qui était enregistré avec un groupe qui s'appelle les International Harvesters.
Voilà, c'est bien,
et
tu vois.
Et c'était en fait, c'est une période plutôt country de Neil Young. Et cette chanson d'ailleurs s'appelle Get Back to the Country. Et voilà donc un petit morceau de Neil Young, Get Back to the Country.
Et donc Get Back to the Bretagne avec Frédéric Brieux. Frédéric Brieux, bonsoir.
Bonsoir Corinne.
Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette dernière émission.
Vous avez... De la saison,
bien évidemment.
De la saison, j'espère bien.
Vous allez donc nous parler du deuxième volume.
Oui.
D'une série, forcément.
Oui.
J'ai vu la couverture, j'ai pas lu cette BD, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle va enjoliver notre été.
Enjoliver, c'est le mot. Donc j'y vais là, oui, pour
vas-y.
Fred, à toi.
À moi.
Soyons fous, tutoyons-nous à l'antenne. Allez.
Voilà, merci, chère amie Corinne. À moi, donc. Donc, en fait.
Mais non, à toi. Pardon, excuse-moi. On va y arriver. Allez, reprenons-nous. Frédéric Prieux, vous allez nous parler d'une BD ce soir. C'est fou.
Oui, deux en même temps, la deuxième plus longuement que la première, mais en fait, voilà, la série. Alors allons-y, j'allais vous dire, chers auditeurs et chères auditrices, êtes-vous bien assis? Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une série de l'anglais Brian Talbot, notez l'accent, que je qualifierais d'enquête policière uchronico-anthropomorphique. Et réciproquement. Voilà, c'est pour ça que je demandais si vous étiez bien assis. Bon, simplifions un peu, il s'agit d'une enquête d'un inspecteur de Scotland Yard, le Brock, qui n'est ni plus ni moins qu'un blaireau, l'animal, hein, donc pas de méprise. Donc,
oui,
une enquête parmi la population animale elle-même, d'où anthropomorphisme. Vous voyez que tout s'explique. Ah, en fait, ça se passe aussi dans un Londres et dans un Paris du futur, mais d'un futur qui aurait légèrement dévié, puisque le cadre de Granville, c'est celui d'une Europe où Napoléon a vaincu les Anglais et où la famille royale a été guillotinée, et où l'Angleterre est devenue un pays insignifiant relié à l'Empire de France par un pont. Donc ça fait rêver tout ça. Donc,
certains, peut-être cauchemarder le pont avec les Anglais, mais non, mais ne nous gonçons pas.
Non, c'est pas ça. Alors, donc, pour simplifier encore, il a suffi d'ouvrir la BD qui est effectivement, chère Corinne, magnifique, d'où l'enjolivement. On se rend compte tout de suite qu'on est dans la famille des polars animaliers, la famille des canardos ou autres black sats, pour citer que les plus connus. Mais avec Granville, on rentre carrément dans une autre dimension, un univers qui est très très riche, et un univers que Brian Talbot, lui-même avoue avoir pris grand plaisir à créer. Alors c'est un hommage direct, je vous le dis, je ne le savais pas, il a fallu que je la postface, à un caricaturiste français, Gigi Granville. D'où le nom de la série. Voilà. Alors Granville avec un D au milieu, hein, c'est pas Granville en Normandie. Et Albert Robida, illustrateur de SF des années fin 19e. Et donc, ce qui donne une série qui appartient en plus à la famille steampunk, la branche de la SF qui est née dans les années 80. Donc, vraiment, un univers complètement bizarroïde, magnifique et étrange, à tel point que Talbot a même inventé des motifs steampunk art nouveau pour sa BD. Donc vous voyez un peu le genre. Donc, de quoi retourne-t-il?
Steampunk art nouveau, ça j'avoue que...
Steampunk art nouveau.
Je suis bien assis, Fred, hein.
Oui, il fallait bien ça. Pour l'été, il fallait bien ça. Donc en fait, une première enquête est sortie l'année dernière, qui s'appelait Granville, tout bêtement. Et là, on parle de celle qui est parue en mai, Granville, mon amour, dont je vous donne juste le début de l'intrigue, qui est donc cette fabuleuse intrigue. Alors, Edward Mastock, dit le chien enragé, s'est échappé du pénitencier au moment même où il allait être guillotiné. Donc l'inspecteur Le Brock, celui qu'on voit sur les couvertures, qui l'avait envoyé sous les verrous, n'est pas très content parce que la chasse à l'évadé était confiée à un dénommé Stoughton, un demeuré incapable qui est, je cite, plus bête qu'un pudding rance. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, Le Brock, l'inspecteur, démissionne, puisqu'il n'a pas le droit d'enquêter, et accompagné de son fidèle Radzi, son aide, il se lance dans la traque du fuyard. Le duo retrouve la trace de Mastock à Paris, et Paris, c'est Granville, je vous l'apprends, où il sème la terreur dans le milieu des filles de joie, qu'il assassine les unes après les autres. Elles sont trop joyeuses, sûrement. Et Le Brock découvre en fait aussi qu'elles travaillaient toutes pour la même mère Macrel, une certaine Madame Cabal, et pas Madame Claude.
Oui.
Voilà. Alors Madame Cabal est une jument accorte, comme on dit parfois.
Oui, bien sûr, on parle souvent d'accorte jument, c'est connu.
Décidément. Donc l'ex-libier de Scotland Yard de notre ami Le Brocq va mettre au jour en fait une affaire qui dépasse la simple traque d'un dangereux maniaque, ce qui serait évidemment beaucoup beaucoup trop simple. Là c'est le début. Bon, après vont s'en suivre moult rebondissements très très bien dosés. Et là on part dans des contrées vraiment qui débordent plus d'un imaginaire. Et c'est fait avec, comme je le disais récemment à un ami, avec un art consommé, n'ayons pas peur des mots, du raffinement. Parce que les personnages animaux que Talbot dessine sont d'une élégance vraiment presque sans faille, même dans les situations les plus délicates, et de chaque temps se dégage une vraie classe. Et on n'est pas loin de l'état contemplatif. Là non plus, j'ai pas peur des mots. Alors, mais je rassure quand même ceux qui peuvent être inquiets après ces descriptions un petit peu béates des planches. Ça reste du polar. C'est assez musclé. C'est parfois même sanguinolent. Et il y a un méchant, comme on aimerait en voir plus souvent, le fameux Mastok. C'est un chien enragé. Franchement, c'est terrible. Et il y a une touche de romantisme pour faire bonne mesure. Donc, comme dans le premier tome, il y a deux volumes, mais qui ne se suivent pas, sont indépendants.
Oui,
mais
c'est une série, en fait. C'est le même personnage. Série.
Voilà. Mieux vaut commencer quand même par le premier, qui pose un petit peu le contexte, là, le fameux Londres, un petit peu. D'ailleurs, c'est une république socialiste anglaise, c'est assez surprenant.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cette république socialiste anglaise, donc, la peine de mort n'a pas été abolie.
Et non, n'est-ce pas ? Donc, une curiosité de plus. Donc, alors, une autre curiosité, c'est les curiosités graphiques que Talbot distille tout au long des albums. Alors, dans le premier, il avait fait plein de clins d'œil référentiels à la culture anglaise. Il les échappait peut-être un petit peu. Il les explique dans la postface. Là, dans ce deuxième volume, il y a carrément un petit clin d'œil à la BD franco-belge, parce que qui voit-on surgir de derrière un rideau chez un prêteur sur gage un peu douteux, Gaston et Lucien, donc nos fameux Gaston de Franquin et Lucien de Margerin, et qui sont les seuls personnages humains, on va dire, de la bande dessinée, les patapins, comme ils les appellent. Ils sont en voyous détrousseurs et ils prennent une raclée, quoi, parce qu'ils sont pas très doués. C'est assez étonnant. Et en fait, ça résume assez bien ce grand ville de Talbot. C'est des surprises visuelles et narratives, mais sur 100 pages. Carrément tout le temps,
carrément,
et au bout du compte.
Sans
pâte. Ah oui, carrément. Et au bout du compte, on a un vrai dépaysement. Moi, je dis, on n'est pas loin du chef-d'œuvre avec cette série. Franchement. Alors,
série Grandville, donc de Talbot, chez Pan.
Talbot, ouais, Brian Talbot, oui.
Brian Talbot.
Et je n'ai pas retenu, je ne me souviens plus si au début vous avez donné l'édition.
Oui, ben non, j'ai pas dit justement, je suis parti sur ma lancée, donc c'est Grandville mon amour, deuxième volume, chez Milady Graphics, dans la collection Milady. L'inverse, je recommence, chez Milady, dans la collection Milady Graphics, voilà.
En fait,
c'est la branche graphique de Bragelonne, des éditions Bragelonne.
De toute façon, je pense que
104 pages couleurs, c'est magnifique.
Si on demande à notre libraire favori la Grandville, je pense qu'il y aura même pas besoin de préciser l'éditeur. En tout cas,
Parce que c'est assez remarqué comme BD, assez remarquable et assez remarqué. Et si j'ai encore 2 minutes, je peux vous donner 2 titres.
Une minute.
Alors en 1 minute, je vous donne 2 excellents titres de BD chez Dargo. Le deuxième tome d'une série des enquêtes d'Andrew Barrymore, un western humoristique entre Blueberry et Sherlock. Je vous le conseille. Secret de famille.
Andrew Barrymore, ça n'a rien à voir avec la comédienne.
Non, Andrew Barrymore.
Ah, pardon, oui,
les enquêtes d'Andrew Barrymore. Voilà, 2 volumes, le deuxième vient de sortir. Et chez Dargo, et le troisième tome de L'Affaire des Affaires, où la vie de Denis Robert racontée par lui-même et dessinée par Astier, je vous le conseille fortement. Ça résume toute la carrière de Denis Robert, pas seulement l'affaire Clearstream. Et c'est de l'autobio en BD, en polar à souhait aussi. Donc voilà. Donc c'est les 2 surprises en plus de ce cher Grandville que j'adore.
Voilà, eh bien merci beaucoup Fred pour cette chronique et les précédentes. On vous souhaite un été plein de belles découvertes BD pour que vous puissiez nous en parler à la rentrée. Et on vous retrouve aussi sur votre blog BD Polar.
Voilà, tout à fait. Merci à vous les amis.
Merci beaucoup Fred et à bientôt en Bretagne.
Bon été.
Voilà. Bon été. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, il nous reste juste quelques secondes. On va vous souhaiter de trouver plein de livres sous les galets ou sous le sable, de vous régaler de mots et d'ambiances très noires sous le soleil, ici ou ailleurs, et puis de vous reposer et de nous retrouver à la rentrée. Même jour, même heure, Jacques ? Voilà.
Bah, très probablement. Hein.
Au revoir Jacques. Merci beaucoup, beaucoup à Philippe, à la technique. Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.